Bonsoir.
Alors on va commencer Bezrat Hashem un nouveau chapitre, qui est une nouvelle phase du Tania. C'est le chapitre 32. Hein, vous voyez, j'ai un nouveau livre. C'est mon cinquième tome de commentaires sur le Tania. Chapitre 32. Comment on dit en hébreu 32? On dit Lev. Alors vous vous rappelez, on avait fait Fabringen, ça fait quelques semaines, autour de ce chapitre 32, on a fait une partie dessus. Donc Bezrat Hashem, on va le développer. D'abord, je voudrais faire quelques introductions avant de commencer ce chapitre. Bezrat Hashem Yitbarach. L'Admor HaZaken avait une grande Ahavat Israël, un très grand amour du prochain. Il y a un texte du rabbi précédent qui dit que dans tout coin, c'est pour reprendre ces termes, dans tout coin où on se tourne dans le Tania, dans chaque recoin du Tania, on retrouve l'Ahavat Israël de l'Admor HaZaken. Et donc c'est pas un hasard si le chapitre qu'on va commencer, le chapitre 32, c'est la même valeur numérique que Lev. Lev c'est le cœur, donc vous avez compris, c'est un chapitre qui va parler de l'importance de Ahavat Israël, de l'importance de l'amour du prochain. L'amour du prochain, hein, c'est la marque de fabrique du mouvement Chabad, d'accord? Comme quand par exemple vous allez en Israël, c'est quoi le slogan de Chabad? Et en vérité c'est le slogan de Chabad dans le monde entier. C'est « Imkol Alev Lechol Echad ». De tout cœur pour chacun. Tout est là. De tout cœur pour chacun. Et chaque partie de ce mot, de cette phrase que je viens de vous dire, est très puissante. D'abord, de tout cœur. Ça veut dire quoi, de tout cœur? Ça veut dire que des fois, je vais rendre service à quelqu'un, je vais dire que je l'aime, mais c'est pas de tout cœur. C'est extérieurement, superficiellement. Et aussi, pour chacun. Des fois, je veux dire, bon, il y a des gens qu'on arrive à aimer, il y a des gens qu'on n'arrive pas à aimer. Et donc, on doit faire un effort, et justement, ça mérite un Lechaïm, on doit faire un effort pour comprendre comment on peut aimer tout le monde. D'accord? Comment on peut aimer tout le monde. Et donc, il faut savoir que, un point très important, c'est que un des signes du Mashiach, c'est que le roi Mashiach, Be'ezrat Hashem, il est écrit que « Ikov kol Israël l'elarva ou l'chazek bitka ». Le roi Mashiach va forcer le Ham Israël à accomplir la Torah. Et une fois, le rabbi l'a expliqué que les gens comprennent mal ce que Maïmonide dit. Les gens, lorsqu'ils lisent ce que Maïmonide dit, ils comprennent que ça veut dire quoi quand on dit que le roi Mashiach va forcer les gens. Ça veut dire qu'il va forcer les gens en leur faisant peur. Et le rabbi ne dit pas du tout. On peut forcer quelqu'un par amour. Ça veut dire que tellement tu lui montres de l'amour, que l'autre il se dit, ça se fait pas. Tellement il montre qu'il m'aime, je peux pas lui faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on retrouve ça aussi dans la relation qu'il y a entre les parents et les enfants, entre un homme et une femme, etc. Que il y a des choses qui se font par la crainte, on va obtenir des choses par la crainte, il y a des choses qu'on obtient par l'amour. Et l'approche de la Chassidut Chabad pense qu'on peut obtenir beaucoup plus par l'amour que par la crainte. C'est-à-dire quand tu montres à quelqu'un que tu l'aimes, quand tu montres à quelqu'un qu'il est important pour toi, eh ben, t'as beaucoup plus de chances que tes efforts aboutissent et que Bezrat Hashem, il va avancer, que si tu vas lui faire peur avec un guéhinom, avec je ne sais quoi. D'accord? Donc c'est pour expliquer, c'est la raison pour laquelle vous entendrez très rarement le rabbi, et pas que le rabbi, les Chabad en général, parler négativement. Je pense que vous fréquentez depuis assez de temps un Bet Chabad, pour voir que c'est très très rare quand on emploie des termes négatifs. Très très rare. Et même quand il y a de quoi parler négativement, toujours on essaye de trouver le côté positif de la chose. Et c'est pas un hasard. C'est parce que le chapitre 32 nous apprend, ce chapitre 32 est un chapitre capital du Tania, il va nous apprendre l'importance de bien juger, et pas seulement bien juger, l'importance d'aimer son prochain, l'importance de toujours bien regarder. Vous savez, je vais raconter quelques anecdotes. Dans le cours d'aujourd'hui, il y aura plusieurs anecdotes, puisque d'ailleurs ce cours, je pense qu'il prendra plusieurs semaines, hein, on va pas le... Chapitre 32, il n'est pas très long. Vous regardez combien de pages il y a ici. C'est pas très long, chapitre 32. Il doit faire 4-5 pages, pas 5-6 pages. Hein? Il n'est pas long. Non, mais je parle dans le commentaire en français. Mais c'est un chapitre qui nécessite et qui mérite plusieurs réflexions. Alors d'abord, on va dire les chaïm à M. Benita. Les chaïm. Bah, au chatadon, on va chez Hakolim. On s'est compris.
Bon, nous, on veut comprendre aussi. Nous sommes compris.
Moi, dit le Chaim. Le Chaim à tous. Leilou Nishmat, Hanania, Ben,
Avraham
et Madel. Alors, on va raconter quelques anecdotes. Je vais commencer par une première anecdote pour expliquer l'importance de Havat Israël. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est important de la raconter quand même. Il y avait un juif, à Bnei Brak, qui critiquait ouvertement le chemin du rabbi et de la Chassidout Rabbad, qui est de rapprocher chaque juif, qui qu'il soit et où qu'il soit. Ça peut être un rachat, il peut se comporter comme un rachat, il peut être à je ne sais où, à Ibiza. L'approche Rabat, c'est qu'il faut toujours tout faire pour approcher une personne. Bien sûr, sans non plus aller faire d'Averot, mais il faut tout faire pour aller approcher une personne. Et il y avait un juif à Bnei Brak qui critiquait ouvertement cette approche du rabbi. Lui dit non. Il dit, il y a des gmarotes, et c'est pas faux. Il y a des gmarotes qui disent qu'il faut haïr les rechaïm. C'est une question qu'on va parler dans ce chapitre. Oui, il y a un gmara qui dit qu'il faut haïr les rechaïm. Et on va expliquer, on va devoir l'expliquer. Et donc, ce juif-là, il critiquait ouvertement le rabbi. Alors, il y avait un chassid polonais qui était à Bnei Brak, qui s'appelle Reb Ben Sion Hafter. Hein, Hafter, bon, bah, c'est son nom. Et donc, c'était son ami, c'était son voisin. C'était son voisin qui se moquait, il lui dit, mais écoute, arrête de t'amuser. Bon, t'es pas d'accord, mais tu te moques pas. Tu sais du qui tu moques, tu te moques d'un tzaddik. On s'amuse pas avec un tzaddik. Et l'autre, il écoutait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, quelques mois plus tard, le fils de ce juif qui critiquait le rabbi, malheureusement, a quitté le chemin de la Torah et les mitzvot. Il a quitté la terre d'Israël, bien sûr, ça faisait beaucoup de peine à tout le monde, mais on peut rien faire. Il est majeur, il a quitté la Torah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Et une fois, quand il était aux États-Unis, je sais pas dans quel état aux États-Unis, il y a eu des chassidim Chabad qui ont rencontré par hasard, mais bien sûr que le hasard n'existe pas, parce que vous savez comment on dit en hébreu le hasard? Mikré. Mikré, c'est les mêmes lettres que Rak Me Hashem. C'est-à-dire tout vient d'Hashem. Il n'y a pas de hasard. Et donc, mais je dis quand même par hasard entre guillemets, des chassidim Chabad ont rencontré ce fils rebelle. Il l'a rencontré, ils lui ont proposé de mettre les tefilines. Maintenant, ce jeune homme, il vient d'une famille religieuse, il sait ce que c'est les tefilines. Donc bien sûr, il leur dit bon, il n'a pas le look, religieux, mais il leur dit bon, je connais, j'ai grandi dedans. Et il dit écoute, on raconte, il dit ouais, on connaît tous. Chaque personne, vous savez, quand on met les tefilines aux gens, qui dit ah, mon grand-père était rabbin, etc., on les connaît. Alors, il dit, ils l'ont pas lâché. Ils l'ont cassé les pieds jusqu'à qu'il accepte de mettre les tefilines. À la fin, il a dit, bon, écoutez, vous êtes sympa. Et là, quand ils ont commencé à parler, etc., ils l'ont invité à venir Shabbat. Et la vérité, c'est lui manquait les plats de Shabbat, tout ça. Il a accepté. Et progressivement, il a commencé à venir au repas de Shabbat, mais sans kippa, hein, la totale, quoi. Il a tout lâché. Progressivement, il a commencé à venir au repas de Shabbat, etc. Et après, progressivement, il a repris contact avec sa famille. Et là, son père, il a compris que c'est pas un hasard. Il s'est dit, attends, c'est pas possible. Je me moque du chemin du rabbi, qui dit qu'il faut aller chercher n'importe quelle personne, même celui qui est rachat. Et finalement, mon propre fils, il se détourne du chemin. Et qui c'est qui le ramène? C'est les chassidim de ce rabbi. Il s'est dit, bon, il avait jamais quitté la terre d'Israël. Parce qu'il faut pas quitter la terre d'Israël pour rien. Il avait jamais quitté la terre d'Israël. Mais là, il a dit, la prochaine fois, si je dois quitter la terre d'Israël, la prochaine fois, c'est pour aller aux États-Unis, pour demander Mechila au rabbi, et pour lui parler, quoi. Je veux comprendre, quoi. Je veux lui parler. Alors, quelques années sont passées, il y a eu une occasion qui s'est présentée, il y a un mariage, quelque chose comme ça, donc l'occasion s'est présentée. Et il a demandé un rendez-vous, première chose qu'il a fait, il a demandé un rendez-vous pour avoir une yichidut, une entrevue privée avec le rabbi. Le rabbi l'a reconnu tout de suite, il n'a même pas besoin de se présenter. Il dit, un tel de Bnei Brak, tout de suite. Bon, là, c'est déjà un miracle, mais bon, on n'est pas un miracle près. Alors, le rabbi le reconnaît tout de suite, et dès que le rabbi l'accueille, il lui a dit, dites-moi, comment vous avez senti lorsque votre fils a quitté le chemin de la Torah? Est-ce que vous avez senti qu'il faut le haïr comme un rachat? Ou est-ce que vous êtes dit, bon, c'est vrai qu'il faut le haïr comme un rachat, mais c'est quand même mon fils et je l'aime, honnêtement. Alors, l'autre, il a répondu, il a dit, bien sûr, c'est mon fils, bien sûr que je l'aime. C'est vrai que la Gemara a dit qu'il faut haïr le rachat, mais qu'il se comporte comme un rachat, mais c'est mon fils, je l'aime. Alors le rabbi lui a répondu comme ça, cette grande phrase. Il lui a dit, vous voyez, moi, chaque personne, chaque enfant juif, je le considère comme mon fils. Et même si je sais ce que la Gemara dit, et on va expliquer, parce qu'il faut expliquer, on ne peut pas ignorer ce que la Gemara dit, c'est pas du tout, il faut expliquer. Mais chaque personne du Ham Israël qui est loin, même si c'est une personne qui est rachat, et la vérité, il faut en trouver des rachaim aujourd'hui, parce qu'à mon avis, ça n'existe presque plus. Ça, on y arrivera. Ça, c'est la fin du chapitre. Même si c'est un rachat, même si c'est un vrai rachat, il a grandi dans une famille religieuse, ça c'est le prototype ça, il a grandi dans une famille religieuse, il a quitté la Torah, sans raison qui s'explique, il l'a quitté, d'accord? C'est quand même comme si c'était mon fils, et donc c'est comme ça que j'aime. Ça c'est l'introduction pour expliquer l'importance de Ahavat Israël, l'importance de l'amour du prochain. Le rabbi précédent, dans ses lettres, il insiste beaucoup sur l'importance de l'amour. Comment la relation qu'il y a entre les chassidim est pétrie d'amour. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle on organise des Fabringen. Quand on organise un Fabringen, c'est quoi le but d'un Fabringen, David ? Le but d'un Fabringen, et c'est d'ailleurs le but d'un Hakel, on fait les Hakel en ce moment, c'est quoi le but d'un Fabringen ? C'est de se rassembler, d'être ensemble, et que chaque chassid exprime son amour à l'autre. Parce que c'est quoi le problème ? Lorsqu'on est assis à la synagogue, bon, un chassid, il ne parle pas à la synagogue. On ne peut pas. Il y a tout le temps une tefila, tout le temps une amida, un kadish, un truc. Tu ne peux pas parler. Maintenant, tu ne sais pas comment il va celui qui est assis à côté de toi. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va pas bien? Comment c'était son séjour en Israël? Tu ne sais pas comment c'est passé. Donc, il faut créer des moments. C'est très important de créer des moments, des moments comme le kiddush, dans lesquels non seulement on va manger ensemble, mais on va parler ensemble. Fabringen, c'est un mot en yiddish. Ça veut dire quoi le mot Fabringen? Se rassembler. Faire la fête. Ensemble. À quel? Exactement à quel? Et c'est un moment très important parce que le rabbi précédent insiste beaucoup sur le fait que Ahavat Israël, l'amour du prochain, c'est la base de la relation entre les chassidim. Les chassidim doivent avoir une relation entre eux qui est pétrie d'amour. Et le Baal Shem Tov disait comme ça. Le Baal Shem Tov disait que il y a plusieurs amours qui sont importants. Trois amours, pour être précis. Ahavat Hashem, Ahavat Torah, Ahavat Yisrael. C'est le trio de choc. L'amour de Dieu, ainsi qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'amour de la Torah, on aime la Torah. Comme quand on va danser avec la Torah, Simchat Torah, on aime la Torah. C'est pas seulement qu'on étudie la Torah, c'est une corvée. On aime la Torah, il y a un amour. Et Ahavat Yisrael, l'amour du prochain. Les trois, le trio. Et on expliquera dans les trois lequel est le plus important. Ça c'est encore une autre question. Le Zohar dit sur ces trois amours, il dit que celui qui a ces trois portes, c'est la porte qui permet de monter chaque Kadosh Baruch Hu. Celui qui a l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour d'Israël, celui-là, il est passe-partout. Maintenant, il continue là-bas, le rabbi précédent, après on va rentrer dans le texte, il dit comme ça. Il dit qu'une fois, il y avait un Fabringen avec des chassidim, et dans ce Fabringen, les chassidim parlaient entre eux de l'importance de Ahavat Israël, de l'amour du prochain. Et à ce Fabringen assistait le Admour Haemtsaï. Admour Haemtsaï, c'est le second rabbi de Lubavitch, le fils de l'Admour Hazaken, l'auteur de ce livre. Mais à l'époque de ce Fabringen, il n'était pas encore rabbi. C'était le fils du rabbi. Et donc, il y avait plusieurs chassidim autour d'une table, dont autour de cette table, il y avait aussi l'Admour Haemtsaï, et ils se sont souhaités quelque chose. Alors, un des chassidim, il a levé son verre, le Chaim, et il a dit que Hachem m'aide, que j'ai une Ahavat Hachem Amitit, un vrai amour de Dieu. Il se souhaitait comme ça. Quelques instants plus tard, l'Admour Haemtsaï a pris lui aussi son verre, et il a dit que Dieu m'aide, que j'ai un vrai amour d'Israël, Ahavat Israël. Donc c'est intéressant, t'as deux chassidim l'un à la suite de l'autre. Le premier, il a dit que Dieu m'aide, que j'ai un vrai amour de Dieu. Et l'Admour Haemtsaï, qui était encore un tout à la jeune homme, il a dit que Dieu m'aide, que j'ai une vraie Ahavat Israël. Il y a eu un débat après entre les chassidim, autour de cette table, qui ont dit, lequel est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Aimer Dieu ou aimer un juif? Bah, évidemment, nous, instinctivement, qu'est-ce qu'on répond? Bah, bien sûr, oublie la Torah. La Torah, c'est après. Entre aimer Dieu, parce qu'il y avait deux souhaits. Le premier, il a dit, je me souhaite d'aimer Dieu. Le deuxième, il a dit, je me souhaite d'aimer un juif. Et donc, les chassidim ont commencé à discuter. Débat. Qu'est-ce qui est plus important? Aimer Dieu ou aimer un juif? Et ils ont discuté comme ça pendant plusieurs semaines. Parce que, on aurait pu directement demander la question à l'Admour Hazaken. Mais vous savez, l'Admour Hazaken, avant d'aller lui poser une question, il fallait d'abord bien peser le pour et le contre. C'est pas comme ça on vient d'y manger une question. Ah, c'est pas comme ça qu'on pose une question. D'abord, quand on allait le voir, c'est qu'on avait la question et qu'on avait les tenants et les aboutissants et le pour et le contre. Et là, on pose la question. Donc, les chassidim, ils ont débattu sur le sujet pendant plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, ils ont posé la question à l'Admour Hazaken. Et donc, ils lui ont dit, d'accord? ils ont posé la question. Ils ont dit voilà. Ils ont dit Ahavat Hashem et Ahavat Israël. Aimer Dieu et aimer Israël, ce sont deux mitzvot de la Torah. Il y a une mitzvah qui te dit Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est une mitzvah d'aimer son prochain. Il y a une autre mitzvah qui te dit Ve'ahavta et Hashem elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc les deux sont des mitzvot. Donc laquelle est plus importante? Ou peut-être les deux sont aussi importantes, puisque les deux sont des mitzvot. Laquelle est plus importante? Alors, pourquoi on pose une question? Parce que c'est complètement différent. D'accord? Une est verticale, l'autre est horizontale. C'est pas la même chose. Aimer son prochain, d'accord? Et aimer Dieu. Laquelle est plus importante? Alors, vous savez, l'Admor HaZaken, quand il répondait tout le temps avec un chant, le chant de la Gemara. Même quand il parlait à sa femme, il parlait comme ça. Il était tellement, il était dans le...
Parfois, une fois, je lui ai fait ça, il m'a envoyé une assiette.
Bon, sa femme, il n'y avait pas une assiette. Alors, ils ont posé la question à l'Admor HaZaken. Ils ont posé la question à l'Admor HaZaken. Et l'Admor HaZaken, d'accord, l'Admor HaZaken, ils ont posé la question, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est plus important? Et l'Admor HaZaken leur a répondu en chantant, il leur a dit comme ça. Il leur a dit, Ahavat Hashem et Ahavat Israël. Il leur a dit en vérité, les deux sont ancrés dans la neshama de chaque juif. C'est-à-dire que chaque juif, il a en lui deux séries, comme on aurait dit. La capacité d'aimer son prochain, son frère juif, et la capacité d'aimer Akadosh Baruch Hu. Cependant, il y a un passou qui dit, Ahav ti etrem amar Hashem. Dieu dit, je vous aime. Donc, ça je l'avais dit la dernière fois Fabringen, puisque Dieu dit, je vous aime, ça veut dire que quand on aime un juif, en vérité, par ricochet qui on aime, on aime aussi Dieu, puisque Dieu il dit qu'il nous aime. Je donne un exemple. C'est comme si je peux aimer le coca, et je peux aimer celui qui aime le coca. Mais quand tu aimes le coca, puisque lui il dit qu'il aime aussi le coca, donc quand tu aimes le coca, tu aimes celui, tu aimes par ricochet aussi celui qui aime le coca. Oui. Bon, là c'est pas du coca qu'on parle, c'est d'un juif. Donc d'un côté il y a le juif, d'un côté il y a Dieu. Quand j'aime un juif, par ricochet j'aime aussi Dieu, puisque Dieu il aime le juif. Ça inclut l'amour d'un kadosh baruch hu. Et donc l'Admor HaZaken leur a donné cette réponse. Alors donnez cette réponse. Alors, bien sûr qu'il faut les deux. Il faut les deux, c'est la question.
Non, c'est compliqué. Non, c'est quand j'aime celui qui n'aime pas Dieu.
Quoi? Ça change pas, ça. Dieu, il aime quand même.
Non, mais juste, moi, j'aime quelqu'un qui, lui, n'aime pas Dieu.
Oui, mais,
que moi, j'aime pas Dieu.
Mais Dieu, il aime quand même.
Oui, mais non, Dieu, il aime pas.
Non, Dieu, il aime, ce juif.
Si.
Ah, c'est sûr.
C'est sûr. C'est son fils.
Non, tous les juifs.
Si ton fils fait une bêtise, t'arrêtes de l'aimer. C'est ça que j'ai commencé avec cette histoire. Alors, Rabotai, et c'est ce que raconte le rabbi précédent. Vous savez, le rabbi précédent a écrit beaucoup de... Voilà. Alors, le rabbi précédent a écrit beaucoup de mémoires. Et c'est ce que le rabbi précédent raconte. Il dit que depuis, les chassidim ont fixé, depuis qu'ils ont entendu cette phrase de l'Admor HaZaken, qui a dit qu'entre l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, l'amour de Dieu, quelque part, c'est pas qu'il est moins grand, mais dans l'amour du prochain, il y a l'amour de Dieu. Depuis ça, les chassidim ont pris sur eux que chaque fois qu'il y a un fabringen, le but d'un fabringen, c'est de montrer l'amour entre les chassidim. Ça veut dire que c'est vrai que des fois, ça peut arriver dans un fabringen qu'on va un petit peu remettre les pendules à l'heure, qu'on va un petit peu recadrer. C'est très très rare. C'est très très rare. En général, le but d'un fabringuet, quand on se rassemble, c'est quoi? C'est Ahavat Israël, c'est Ahavat Chassidim, l'amour entre les Chassidim, l'amour entre Juifs, et faire en sorte que de chaque chose, on va retrouver l'amour de son prochain. Et on a beaucoup d'histoires comme ça de tous les rabbis de Chabad, et pas que les rabbis de Chabad, depuis le Baal Shem Tov, qui voient, qui montrent comment ils avaient un amour extraordinaire. Ils avaient un amour extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu, et surtout, un amour extraordinaire pour les Juifs. Et en fait, le niveau d'amour le plus grand, c'est quoi? C'est ce qu'on expliquera plus tard, ce qui s'appelle Ahavat Rinam, l'amour gratuit. Vous savez ce que c'est l'amour gratuit? Pour expliquer c'est quoi l'amour gratuit, il faut expliquer c'est quoi la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Vas-y David, c'est quoi la haine gratuite?
C'est quand t'aimes personne, hein?
Non.
Plus que ça.
C'est quoi la haine gratuite?
C'est que t'aimes pas quelqu'un,
détester
sans raison.
Hein? Détester. Quand par exemple quelqu'un, il t'a décollé une droite, tu le supportes pas. C'est une haine justifiée ou une haine gratuite? Bon, je dis pas que j'ai le droit de le faire, mais c'est une haine que je peux expliquer. C'est bon en bataille?
Il y a une raison.
Il y a une raison, on peut l'expliquer. Maintenant, quand c'est une haine gratuite, le gars il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Je peux pas me le voir en peinture. Il m'a rien fait. C'est la haine gratuite. D'accord? Bataille, on se concentre. Après on va prendre les mots. Oui. c'est la haine gratuite. Alors, c'est quoi la réponse à la haine gratuite? La réponse à la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. C'est quoi l'amour justifié? L'amour justifié, c'est quand quelqu'un il m'a rendu un service, alors je l'aime. Ou quelqu'un il me plaît parce qu'il se comporte bien, je dis « Ah, il me plaît celui-là ». Mais c'est quoi l'amour gratuit? Un juif que tu connais pas,
que tu l'as pas vu,
que t'as jamais rendu aucun service et qui te rendra jamais aucun service, et il est là à te pomper. Il n'y a aucune raison de l'aimer celui-là.
Il te fait des crasses.
D'accord? Il te fait des crasses. Ah, d'accord? Bon. Tout ce que tu veux, la totale. Et tu continues quand même à l'aimer. Tu continues quand même à l'aimer. Ça, c'est l'amour gratuit. Et le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, deux secondes. On va expliquer tout le cours, on va être sur ça. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit de la même façon que le Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? La haine gratuite. C'est quoi la seule réponse possible à la haine gratuite? C'est l'amour gratuit. Mais c'est très difficile. Et je vous le dis en tant que rabbin, hein. C'est très difficile. Parce que au-delà du sourire, il y a une personne. D'accord. Et quand t'as des gens qui sont là des fois en train de te pomper, etc. À un moment, ça y est, tu dis basta. C'est difficile des fois. Tu comprends, les gens ils sont là, ils tirent. À un moment, tu peux plus. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis non, il faut quand même continuer à lui rendre service, à l'aimer, à lui montrer que tu l'aimes et à l'aimer profondément. C'est difficile. D'accord. Mais il y a un travail à faire. Mais on va développer. Bezrat Hashem. Et donc deux secondes. C'est pas par hasard. Si le thème de ce chapitre et le numéro de ce chapitre, c'est le chapitre 32, puisqu'on va expliquer Be'ezrat Hashem maintenant, comment lève le cœur, comment avoir Avat Israël. Donc plusieurs questions. D'abord, comment aimer chaque juif de tout son cœur, numéro 1, de tout son cœur, comment c'est possible? Et surtout, comment aimer chaque juif? C'est facile d'aimer les gens qu'on aime. Le plus difficile, c'est d'aimer les gens qu'on n'aime pas.
Il y a un effort.
Monsieur Vinitem dirait c'est normal. Bah oui. C'est facile d'aimer les gens qu'on aime.
Comment on peut aimer une personne?
Ouais, c'est pas de l'effort.
C'est facile. Les gens qu'on aime naturellement, comme nos enfants, nos épouses, les gens qu'on aime, les gens qui se comportent bien, nos amis, c'est facile de les aimer. Mais il n'y a aucun effort en aimant quelqu'un que tu aimes. L'effort va être d'aimer quelqu'un que tu n'aimes pas naturellement. C'est pas ta tasse de thé, c'est pas ta cam, tu ne supportes pas, c'est pas ton truc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que, s'il pouvait ne pas exister, ça aurait été mieux.
C'est un amour contre nature.
C'est contre nature. Et ça, il faut expliquer comment y arriver. Maintenant, les questions. Allez-y.
Un juif qui te fait des problèmes, qui te fait une crasse. Mm-hmm. Lui aussi, tu dois aller.
Bien sûr.
Mais comment tu peux arriver?
C'est la question. Comment faire?
Parce que le fait de ne pas connaître un juif et de l'aimer, tu serais d'accord? Tu veux bien? Tu le connais pas?
Oui, c'est plus facile quand tu le connais pas. Ouais. Bien sûr.
Quelqu'un qui vient et qui te fait toujours des problèmes.
Bien sûr. Mais je vais aller plus loin que ça. Imagine-toi que c'est un juif, c'est pas qu'il te fait à toi des problèmes, il fait des problèmes à Dieu. C'est un rachat.
Mais qu'est-ce que tu rentres dans les
Non, mais attends, non, pas du tout. Raison de plus en tant que juif religieux que ça m'écœure.
Non, mais je
le vois, j'ai envie de vomir.
Mais je peux pas juger.
Je peux pas rentrer dans les comptes de Dieu. Dieu, il fait les comptes pas, tu es là pour les.
J'ai compris, mais. T'as des fois des gens qui font des avérotes tellement graves, des abominations tellement graves, que tu les vois, t'as envie de vomir. T'as même pas envie de regarder.
Le délateur, c'est
très difficile.
On ne doit pas juger, Amadi.
C'est dur.
Non, mais l'effort de chassidisme, c'est de pouvoir aimer même des gens comme ça.
C'est très difficile. Quand tu vas, par exemple, des fois, tu vas aller sonner du chauffard à Rosh Hashanah chez les gens, etc. Et tu vois qu'il y a deux messieurs. Ça m'est arrivé plus d'une fois.
Ah
ouais. Oui.
Ils ont apprécié, mais...
En même temps, c'est un début de Minyan. Hein.
C'est très dur. Mais t'as envie de vomir, t'as envie de te sauver.
Bon.
Hein? Bien sûr, et alors quoi?
Mais tu ne juges pas.
Bien, un juif en tout cas. Hein?
Mais tu ne juges pas.
Non, justement. Alors, Dan, il dit un bon point. Il dit, tu ne juges pas. On va aller plus loin que ça maintenant.
Mais ça te regarde pas.
En fait. J'ai compris, non, mais là, c'est beaucoup plus fort.
Non, parce que tu es impliqué.
Parce que concrètement, on va aller beaucoup plus loin que ça. Non seulement que je ne juge pas, ça c'était le thème déjà du chapitre 30, ne pas juger. Ouais. Là, on va aller beaucoup plus loin. On va dire, tu vas l'aimer.
C'est plus là.
Je dis, attends, et bon, moi je ne juge pas, d'accord. Bon. Je me sauve, d'accord. Ben, tu me laisses tranquille, il fait ce qu'il veut, c'est entre lui et Dieu, ne me casse pas les pieds. Tu dis, non, il faut l'aimer. Quoi l'aimer? Bah oui, la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer?
Qu'est-ce que ça veut dire aimer?
Comment on comprend la lumière de ce chapitre 32?
Attends, on l'a pas fait encore.
Non, mais
l'a fait. Hein?
Comment on comprend?
Quand on l'a fait? Hein? Ah, d'accord, oui.
Toutes les histoires de nidouille.
Juste en quarantaine. Bien sûr.
Ça,
c'est des grands chachamim qui prenaient la décision de mettre quelqu'un en quarantaine. Mm-hmm. Mais... C'est-à-dire quoi qu'on ne devait plus l'aimer, c'est ça que ça veut dire, mais la mise en quarantaine.
Non, ça veut pas dire ça.
C'est quoi la mise
non,
en quarantaine?
C'est la mise à l'écart. Pas du tout.
Éloignez-vous de lui.
Quand un enfant il fait une bêtise à l'école et qu'on le met au piquet.
Ouais.
D'accord? Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'on l'aime plus? C'est une quarantaine. L'enfant, il le vit comme une mise en quarantaine.
Sixième de quarantaine.
T'as déjà été piqué quand t'étais petit?
Oui.
Ouais. Ah, bon, voilà, tu sais ce que c'est, alors. Hein? Alors, comment tu t'es senti? Moi aussi, j'ai été piqué. Hein? Comment tu t'es senti?
Tu sens exclu.
Tu sens exclu. Hein? Avec la main comme ça, au coin du mur. En plus, quand c'est, en plus, quand t'as fait, on t'accuse d'un truc que t'as même pas fait, bon, c'est pas grave. Ça te marque. T'es là comme ça, et t'es là, et t'es en continu de te retourner. Je peux me retourner? Non, pas encore, tais-toi.
T'as connu de piquer?
Ça, ça sent le vécu. Hein.
Hein? Bien sûr. Bon. Alors, on va rentrer dans les mots.
On répond, c'est pour ton bien. En fait, c'est par amour.
Donc c'est par amour.
C'est une réponse un peu.
Ah non, il faut expliquer. Il faut expliquer. Ok, alors on y va. Très bonne question. Donc on a même pas commencé, on a plusieurs questions. C'est pour ça que je voulais faire cette introduction. D'abord, qu'est-ce que c'est aimer? Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? D'accord? Est-ce qu'on peut aimer les gens qui nous font des crasses? Est-ce qu'il y a des gens que c'est pas mieux de les ignorer? Comme ça tu dis, bon écoute, celui-là je fais comme si qu'il n'existe pas.
Ça c'est facile.
C'est facile d'ignorer. D'accord? Là la Torah te demande de faire un effort d'aimer. Et pourtant, il y a des gens que la Torah te dit, il faut les détester.
Ah,
oui, non, des... alors comment ça marche?
C'est pas
d'un bon, côté, je dois les détester, d'un côté, je dois les aimer. Comment je fais? Est-ce que.
Après, ça dépend de chacun.
Il faut les aimer?
Il faut comprendre.
Après, tu leur parles, tu leur parles pas, c'est une autre question. Mais les aimer, tu dois les aimer.
Toi, oui,
bien sûr. Qu'est-ce que c'est? D'accord?
Ou non?
Aucune.
D'accord.
Il n'y
a aucune. Il n'y a pas un si aimer les autres, il n'y a rien.
Ok.
Il y a une différence entre aimez-vous les uns les autres chez les catholiques et aimer son prochain comme soi-même. Chez
ah oui,
les
non, d'accord, non, on va en parler.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Tu ne peux pas aimer tout le monde.
Bon, c'est pas mes références, mais.
Pas aimer tout le monde.
Non, non, j'ai pas dit ça. On peut aimer tout le monde, mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même
quoi
approche.
Ils sont pas juifs, Daesh.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux juifs ou mon prochain c'est un chrétien aussi?
Non, on parle des juifs. Réacha, dit la Gemara, c'est ton ami dans les Torah Mitzvot.
Juifs, souvent, on a des juifs qui sont...
Ah, des Bécrim, oui, bien sûr.
Qui sont des contre...
Bien sûr.
Spinoza, j'ai parlé tout à l'heure de Spinoza.
Ah, si vous l'avez connu, Spinoza? Ouais, parlez des gens d'aujourd'hui. Pour,
il était avec lui à l'école.
Oui.
Alors, est-ce que je dois l'aimer?
Je dois l'aimer, oui. Comment on pose? Comment c'est possible? C'est une question. On va développer. Ok.
Le Pen.
Veiné. Veiné. Non, mais c'est les... Non, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de rachats. C'est une question, c'est une question. Prends un gars par exemple. Il y a des fois des gens par exemple, des gauchistes comme ça, israéliens, mais des gauches de la gauche. Des gens qui veulent une chose, c'est faire tomber l'État d'Israël, etc. Prends des gars qui vont aller voir Ahmadinejad, etc. C'est des gens, tu... C'est répugnant, tu les vois, t'as envie de vomir. T'as envie de vomir. Ah, ben si. Il faut les aimer. Alors comment c'est possible?
Tu veux dire que même les Netour et Carta, il faut les aimer.
Il faut les aimer, ouais.
Ils ont envoyé leur gosse de l'école.
Si le Netour et Carta, Chas Veshalom, était ton fils, tu l'aurais aimé ou pas?
Non. C'est mon fils, je peux pas ne pas l'aimer.
Ah, voilà. Non, tu peux pas ne pas l'aimer.
Le point de comparaison, c'est ça. Tu dois considérer comme si c'était ton fils ou ton frère. C'est difficile, hein.
C'est très difficile.
Mais ton fils à quel âge?
Alors on y va. Veiné. Non, je pense. La question est là. Ok. Allez, Rabotaï, on attaque le texte.
C'est là la difficulté.
Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions encore? C'est important que vous posiez toutes vos questions, comme ça, Bezrat Hashem, on va essayer d'inclure les réponses dans le texte.
Abraham, il a un forfait.
Allez,
vas-y.
Non. C'est marqué Rakamora. Comme toi. Comme toi, tu t'aimes, il faut que tu aimes aussi ton prochain. Mais des fois, moi, je m'aime pas. Plusieurs fois. Si moi, je suis un étoile écartée, je m'aime plus.
Il fallait voir un psychologue pour ça.
Non, mais je te dis.
Mais dis, s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut te tuer, tu dois d'abord te lever, le tuer d'abord.
Ça, c'est une autre question. Mais je ne vais pas dire je l'aime pas.
Non, mais tu parles avec lui après.
Non.
Ça, c'est une autre question.
Qui vient finalement parce qu'il veut la destruction d'un autre juif. Pour moi, c'est ça.
Mais la question n'est pas est-ce que je prends acte contre lui ou pas. Je vais prendre acte contre lui. Mais la question est-ce que je l'aime quand même.
Non.
Tu vois, une différence. Aimer, c'est un sentiment. C'est une question. Alors, on va développer.
Mais ça, ça va t'interroger, en fait.
Ça
veut dire discuter avec lui ?
Non.
Ça veut dire aimer.
L'aimer.
Comme ton fils.
L'aimer. Tu l'aimes au fond de toi.
Ou alors j'aime sa neshama.
Est-ce que maintenant tu aimes ton fils ? Maintenant, à la seconde, là. Il est 9h10. Est-ce qu'à 9h10, tu aimes ton fils ? Tu es en train de parler avec lui ?
Est-ce que tu aimes ses bonnes actions ?
Pourquoi tu l'aimes, alors ? Parce que aimer, c'est pas besoin de parler pour l'aimer. Aimer, c'est en toi. Tu sens que tu l'aimes, c'est tout. C'est au fond de toi. C'est là. Maintenant, tu peux être fâché avec quelqu'un que tu aimes. On est d'accord ? Et tu peux aussi détester quelqu'un en même temps que tu l'aimes. Ça vous arrive des fois ? Tu peux t'accrocher à quelqu'un très fort, tu le détestes et tu l'aimes en même temps. Hein ?
Parce que justement, on l'aime très fort.
Vous avez les exemples, M. Benita ?
Ben oui, parce que ça arrive dans la vie, oui.
Ouais. Avec quel genre de personnes ça arrive ?
Les proches.
Les proches ?
Non.
Les proches ? Une fois, une fois j'étais parti voir le Rav Azimov. Zichrono Livracha. Parce qu'il y avait deux personnes qui avaient un conflit, j'essayais de régler ce conflit. Qui avaient un conflit, j'essayais de régler ce conflit. Et le Rav Azimov, il m'a dit, tu vas leur dire la chose suivante. Tu vas leur dire, est-ce que vous êtes tellement amis au point d'être tellement ennemis? Écoutez bien, c'est une réponse très très puissante. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, plus on s'aime très fort, et plus quand on s'accroche très très fort.
Bah oui, c'est passionnel.
Et donc, c'est pour ça qu'il m'a dit, ces gens-là, tu vas leur dire, hein, pourquoi vous vous battez tellement? Vous vous aimez tellement au point que vous vous accrochez? Et quand j'ai dit cette phrase, tout de suite, ça réglait le problème. Ils ont compris au fond d'eux qu'en vérité, ils s'aimaient. Non, il s'aimait très fort. Il s'aimait. Au contraire. Et on le voit d'ailleurs. Comment Chazé Shalom, des fois quand un mari et une femme ils se disputent, ou même des fois Chazé Shalom quand ça va jusqu'au divorce, on voit des fois comment ça peut être la guerre. La guerre, on dirait que deux ennemis jurés, ils sont là, ils veulent se tuer. Parce qu'ils se sont aimés très fort. Et plus ils sont aimés très fort, et plus quand ça casse, c'est la guerre. C'est la guerre, j'en ai vu ça. La guerre.
Il se passe l'inverse en fait.
Alors, maintenant on va reprendre dans les mots. Veine, chapitre 32. Alédé qui umadvarimana, lorsqu'on va accomplir ce qu'on a expliqué dans le chapitre 29, 30 et 31. On a expliqué comment, surtout dans le chapitre 31, comment l'âme devait être plus forte que le corps. Liot, gufo, nivzevenimas beinav. On a expliqué dans le chapitre 29, 30 et 31, et surtout dans le 31, que on doit faire un effort pour que l'âme doit être supérieur en moi, et que mon corps, pas être dédaigneux, mais doit être au second plan, et que mon centre d'intérêt principal, comme on va expliquer tout de suite, c'est quoi? C'est l'âme, et que ma joie, qu'est-ce qui me procure de la joie? C'est uniquement l'âme. Ce chemin-là, le chemin de faire passer l'âme, et que ce qui va déterminer mon centre d'intérêt principal, c'est mon âme et pas mon corps. Ça, c'est un chemin qui est droit et qui est facile. Il y a des chemins qui sont tordus et qui sont compliqués. Ça, c'est un chemin droit et facile. Lavo l'idekium, pour arriver à l'accomplissement, mitzvah de ahavta l'eracha kamocha. De la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. L'echol nefesh mi Israël, pour chaque personne du âme Israël. Le migadol veat katan, du plus grand au plus petit. Vous avez compris ce que je veux dire quand je veux dire le plus petit. C'est-à-dire du plus grand, du Ham Israël, du Gadol, au plus petit. Comment ce qu'on a expliqué dans les chapitres précédents va nous aider à comprendre comment on peut aimer tout le monde? Qu'est-ce qu'on a expliqué dans les chapitres précédents, chapitres 29, 30 et 31? On a expliqué que chez un juif, le plus important doit être son âme. Et que malheureusement, à cause de quoi on fait des avérotes, à cause de notre corps. Il faut apprendre à mettre son corps un peu de côté. Expliquer au corps que c'est pas tout ce que tu veux que tu auras. Il faut apprendre à bien juger et apprendre à juger les choses par rapport à ses neshama. Alors, quand on va réussir à faire en sorte, mais on va donner toutes les techniques, que la neshama va être prioritaire, ça sera avec ça, on aura une technique facile pour pouvoir aimer n'importe qui. De façon générale, c'est difficile à demander à quelqu'un d'aimer une autre personne. Surtout si c'est une personne qui a aucune qualité, et encore pire si c'est un rachat. Et encore plus si tu me demandes de l'aimer kamocha, comme moi-même. C'est difficile. Tu me demandes d'aimer une personne qui a pas de qualité, ou encore pire, qui a des mauvaises qualités, donc qui a des défauts. Tu me demandes de l'aimer et de l'aimer comme moi-même. Comme dit M. Benita, c'est contre nature. C'est Efer Hateva. Et d'ailleurs, M. Benita, sachez que Nachmanide, d'accord? Nachmanide pose votre question. Je vous lis dans les mots de Nachmanide. Il dit, Lo yekabel lev à Adam. Le corps d'un homme, c'est dans mes commentaires. Le cœur d'un homme ne peut pas accepter. Sheyehov et Travero, qu'il va aimer son prochain, qui est Avato et Tafcho. Il ne peut pas accepter que je vais aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Encore plus si tu me dis, encore plus si tu me demandes d'aimer quelqu'un qui n'a pas de qualité, et encore plus si tu me demandes d'aimer quelqu'un qui a des défauts, et tu me demandes de l'aimer comme moi-même. C'est pas possible. D'accord? Alors, Béhémet, il y a des commentateurs, des grands commentateurs, qui ont dit qu'il ne faut pas comprendre ces passages au sens littéral. Les grands commentateurs. Nachmanide, il pointe un peu vers ça. Ils disent que le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne faut pas le comprendre au sens littéral. Je dis non. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais comme si c'était toi-même. Ça veut dire que de la même manière que toi, tu fais attention à ton argent, fais attention à son argent. De la même manière que toi, tu ne veux pas qu'on te conne, ne le conne pas. Maintenant, ce que je sens, je ne peux pas l'aimer comme moi-même. Ça, c'est beaucoup de commentaires expliqués comme ça. Mais l'Admor HaZaken, d'ailleurs, Rashi explique comme ça aussi, l'Admor HaZaken dit non. L'Admor HaZaken dit pour moi, puisque la Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il faut l'aimer. Faut prendre ça au pied de la lettre. Sauf, reste à expliquer comment. C'est impossible, a priori. Je peux pas aimer quelqu'un qui a des défauts comme moi-même. Parce que moi, quand j'ai des défauts, je me supporte pas. Alors comment tu veux que j'aime quelqu'un d'autre avec des défauts? Je peux pas le supporter. L'Admor HaZaken va expliquer que c'est obligatoire de le faire. Et d'ailleurs, quand vous regardez Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Deot, dans les lois de comportement, dans le Mishneh Torah qu'on étudie tous les jours, je vous lis dans les mots de Rambam, c'est la halakha qui l'a tranché la halakha, hein, c'est écrit en Shulchan Aruch aussi, il dit, mitzvah al kol adam, il est une mitzvah à chaque personne, le'ehov et kol echad ve'achat mi Israël, d'aimer chacun et chacune, donc les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes bien sûr, mi Israël de Israël, kegoufo, comme soi-même. On a une mitzvah d'aimer chaque personne d'Israël comme soi-même. Chez Nehemar, ainsi qu'il est écrit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand tu parles de l'autre, c'est comme si c'était toi. Les intérêts de l'autre, c'est comme si ce sont mes intérêts. Comment c'est possible? A priori, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Par rapport à mon corps, l'homme est par définition égoïste. Tu me demandes d'écouter l'autre. J'écoute l'autre, d'accord, pas de problème, j'écoute. Mais qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Tu me demandes de l'aimer comme si c'était moi-même, mais c'est pas moi-même. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Viens, l'Admor HaZaken explique comme ça. Il dit, c'est très simple. En vérité, quel est le frein principal qui m'empêche d'aimer quelqu'un d'autre?
Je le connais pas.
C'est mon corps. Comme j'analyse l'autre par mon corps et avec mon corps, et je l'analyse par son corps, là, effectivement, les corps sont différents. Son corps, c'est pas mon corps. Chaque corps a ses qualités. Et il y a des qualités que moi j'aime et des qualités que je n'aime pas, qui sont des défauts. Et pour une autre personne, ces défauts sont des qualités. C'est qu'on est différent au niveau du corps. Comme on est différent, étant donné qu'on est différent au niveau du corps, c'est la raison pour laquelle, à cause de ces différences, on a du mal à aimer des gens qui sont pas comme nous. Mais si on apprend, en tant que juif, à moins regarder le corps, et à plus regarder la neshama. Quand je regarde un autre juif, je vois pas l'enveloppe qui est autour de lui, qui est son corps. Je vais essayer de m'imaginer la neshama. Au niveau de la neshama, ce juif, même si son corps il s'est mal comporté, mais au niveau de la neshama, est-ce que moi je connais sa neshama, quel neshama il a? Des fois, par exemple, il y a des gens ils vont voir un tzaddik, et le tzaddik il dit, waouh, celui-là il a une grande neshama. Hein, tu vois rien du tout, toi. Pour toi, il est à côté de la plaque celui-là. Tu dis, mais je viens vous demander bracha pour monsieur un tzaddik, celui-là, grande neshama. Et grande neshama, ou grande neshama, c'est un rachat. Parce que la neshama, c'est pas quelque chose qu'on peut jauger comme le corps. Le corps, tu peux voir. Une personne qui se comporte bien, il a l'air bien. Une personne qui se comporte mal, il a l'air mal. Une personne qui se comporte bien, tu le vois, il est propre. Une personne qui se comporte mal, tu le vois, il est sale. C'est tout, c'est clair. Mais dans la neshama, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la neshama, tu peux avoir une personne qui a l'air rachat, mais qui en vérité a une neshama extraordinaire, une neshama très très forte. Et que si j'arrivais à voir la neshama qu'il avait, je serais fou de lui. Tellement il est grand. Et c'est pour ça que dit ici l'Admor HaZaken, il dit que je dois partir de la base que mon voisin, celui qui est en face de moi, il a peut-être une neshama extraordinaire qui est encore plus grande que moi. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est très important. Il dit comme ça. Pardon?
Peut-être que la neshama n'est pas forcément bonne. On peut tomber sur d'autres gens. Tout le monde n'a pas une bonne neshama.
Tout le monde a une bonne neshama.
C'est positif.
Et je vais vous dire plus que ça. La neshama qu'on a n'est pas liée au corps qui le porte, et surtout n'est pas liée au degré d'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire qu'on peut avoir un juif très religieux qui a une neshama bas de gamme, et un juif grand rachat qui a une neshama très haut de gamme.
En général, c'est
hein?
Ça veut dire quoi de gamme?
Il n'y a pas en général.
En général,
quoi?
Ça arrive.
Moi, je ne peux pas le voir.
Non, mais alors comment tu me demandes?
Non, 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 attends, on va aller par palier. Je t'ai pas demandé de le voir. D'abord, ce que je vais expliquer, c'est que ma manière de regarder mon frère juif doit changer. Je dois pas le regarder par son corps, je dois le regarder par son âme.
Moi, j'ai des yeux qui veulent le
très bien, y a pas de problème.
Moi, je peux aller voir son
mais je dois pas le regarder en tant que corps, je dois le regarder en tant qu'âme. Et par exemple, est-ce que quand je regarde mon fils, je le regarde en tant que corps? Je l'aime pas par rapport à son corps, je l'aime par rapport à son âme. Ça veut dire qu'il y a une liaison profonde entre mon âme et son âme. D'accord ? C'est pas parce qu'il a un nez comme ça ou une oreille comme ça, ça change rien ça. Je l'aime parce que c'est mon fils. Ça veut dire que la relation, l'amour qu'on a avec nos enfants, est un amour qui est au-delà du corps. C'est un amour qui est au-delà du corps, qui est lié à l'âme. Maintenant, si on parle des neshamot Israël, des âmes juives, chaque juif a une neshama. Cette neshama peut être une neshama qui est extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ça, pour illustrer sur les neshama. Le rabbi précédent raconte, il dit comme ça, il dit, en hiver 5673, donc ça fait à peu près 100 ans, 103 ans. Ça fait donc dans l'hiver 5673, il dit, je suis parti pour aller rendre visite à mon père qui était à Menton.
1912.
Son père, à Menton, le rabbi Rachab, donc ça veut dire deux rabbis de Lubavitch en arrière, était à cette époque-là, donc ça fait 103 ans, il était à Menton. Parce que il avait des problèmes de santé, et les médecins lui avaient dit qu'il devait faire plusieurs mois de cure thermale. Donc il avait dû déplacer sa yeshiva et tout, il était à Menton. Pendant qu'il commandait, on sait la maison où il était, c'est une maison qui existe toujours. À Menton.
Beaucoup d'organismes passaient par Menton.
Sûr, à l'époque, enfin, je crois que toujours, aujourd'hui encore des cures, c'est là-bas, non?
Rabbi Igor, voilà.
Alors, il raconte comme ça, écoutez cette histoire. Il raconte, il dit, je suis parti voir mon père. Parce que bon, lui aussi, il était, Rabbi Sefitzra, qu'il était marié, donc, il avait une femme, des enfants, etc. Donc il allait voir son père, il revenait, il faisait des allers-retours. Entre la Russie et Menton, pour aller voir son père. Et il raconte, il dit que je suis parti voir donc mon père à Menton, et on est parti se balader au bord de la mer. Et dit, le médecin avait dit que plusieurs fois par semaine, mon père devait se balader au bord de la mer. C'est pas une plage, hein, c'est pas des plages là-bas, c'est.
C'est là,
c'est, hein, c'est voilà.
C'est
non.
Mer, c'est
ah, non, non, il y a la mer.
Il y a la mer.
C'est bord de mer.
Oui.
Bord de mer.
Oui. Non, tu confonds avec Genève, avec la Suisse.
Ah non, non, non,
c'est Genève, c'est Menton.
C'est Menton. Et donc, il raconte comme ça. Il raconte comme ça. Il dit, plusieurs fois par semaine, j'ai eu le mérite de passer plusieurs heures avec mon père dans une balade. Alors il raconte comme ça, il dit, pendant ces heures-là, que j'ai passé avec mon père, j'ai eu le mérite, dit le rabbi précédent, que mon père m'a raconté des histoires qu'il a racontées à personne. C'est à côté de Monaco tout ça. Il dit, j'ai eu le mérite que mon père a raconté des histoires qu'il a racontées à personne. Des choses qui se transmettent de rabbi en rabbi. Il raconte comme ça, il dit, je suis resté avec mon père pendant 2 semaines, et il dit, à un moment, parmi les paroles que mon père m'a dit, il y avait... quelque chose que mon père m'a dit pendant plusieurs jours. Quelque chose que mon père, c'est un Dvar Torah que mon père m'a dit en plusieurs jours, pendant plusieurs balades. Et il m'a dit comme ça. Un résumé. Alors le rabbi précédent n'a pas tout raconté, mais il a dit, voilà le résumé de ce Dvar Torah. Dans ce Dvar Torah que mon père a dit, il a dit qu'il y a plusieurs niveaux dans l'élévation. Quand un juif veut s'élever, il y a plusieurs niveaux. Il y a en fait 8 niveaux. 8 niveaux dans l'élévation de la neshama d'un juif. Premier niveau, alors je vais vous les lire. Hein. Premier niveau, c'est quand on arrive à raffiner notre corps, pour faire en sorte que mon cœur et mon cerveau soient un réceptacle pour que la Shrina réside en moi. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que j'arrive à raffiner mon corps pour faire en sorte que, dans ma tête et dans mon cœur, je peux ressentir un peu Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, j'arrive à renvoyer l'âme animale. Déjà, nous, on est au premier niveau. Hein. Nous, on est largué au premier niveau. Donc là, on parle des gens qui arrivent à se travailler. Donc ça veut dire, premier niveau, c'est celui qui a réussi à tellement raffiner son corps pour faire en sorte que la Shrina réside en lui. Il arrive à ressentir Dieu dans son cœur et dans sa tête. Ça, c'est number one. Numéro deux, c'est celui qui arrive à renvoyer l'âme animale. C'est un sadique déjà. Troisième niveau, c'est celui qui arrive à laver son âme vitale. L'âme vitale, c'est l'âme qui lui permet de vivre, de manger, de boire, etc. C'est-à-dire que même quand il mange, quand il dort, quand il boit, même dans des actions qui sont basiques, même ça, il arrive à mettre la kedusha dedans. Ça, c'est niveau 3. Niveau 4, c'est c'est quand il arrive à modifier sa façon de réfléchir, son nefesh asikhi, que sa façon de réfléchir est entièrement dans la kedusha. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de faire un effort. Automatiquement, il réfléchit à la kedusha. Direct, automatique. Niveau 4. Niveau 5, c'est quand il arrive à éclairer le monde, ce juif. Il arrive à éclairer le monde autour de lui. D'accord? Niveau 5. D'accord? Ensuite, niveau 6, c'est quand il arrive non seulement à éclairer le monde ici-bas, mais il arrive à éclairer le monde supérieur. Je continue? Niveau 7, d'accord? Niveau 7, c'est quand il arrive à éclairer tous les niveaux de ce Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et qu'il arrive à invoquer n'importe quel niveau de ce Neshama à n'importe quel moment. Chose que nous, on est capable de faire que la Nihila d'Yom Kippour. Ça, c'est 7e niveau. Et 8e niveau, c'est celui qui arrive à modifier à 100% l'essence de la nature de son comportement. Ça veut dire que son comportement, il change entièrement au point que la nature avec laquelle il est né, elle n'existe plus. Il a une nouvelle nature. Ça, c'est le 8 niveaux qu'il a cité. Et ça va en crescendo.
Il y a combien d'échelons comme
ça? Ça, c'est quelque chose qui se transmet de rabbi en rabbi. Pourquoi je vous raconte ça? Pour expliquer que quand il nous dit ici de regarder les gens par la neshama, bon, vous comprenez, c'est celui qui doit déjà partir du niveau 4, niveau 5, là, déjà, il commence à voir les gens par la neshama. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. Qu'on soit à ce niveau-là ou qu'on soit pas à ce niveau-là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'on va voir un tzaddik. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'un médecin il peut voir avec le corps, mais il y a des choses qu'on peut pas voir. Donc quand j'ai un juif en face de moi qui est rachat, pourquoi je décide qu'il est rachat? Je décide que je l'aime pas parce que par rapport à son corps, je le supporte pas. Par rapport à ce que son corps envoie, par rapport à ses qualités, par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon d'agir, je le supporte pas. Donc, c'est ce qu'il dit ici, l'Admon Razaken, il dit, si déjà...
Qu'est-ce qu'elle vient faire cette échama?
Très bien, c'est une autre question ça, c'est pas mon problème.
Le but de la neshama, c'est de s'élever, s'élever, s'élever. À un moment donné, quand on a une neshama aussi, qui redescend dans...
Qu'est-ce qui fait ce moteur dans cette carcasse?
Voilà.
Hein, comme, voilà, Serge dit, mais c'est du gâchis. Ouais. On te met un V12 dans une carcasse, c'est pas possible. Hein, c'est péché. Hein,
c'est très grave, ça.
C'est assourd. C'est dans une carcasse cabossée partout, c'est pas péché. Hein, bon. Et on va changer, on prend ce moteur, on le met là. Ah, c'est comme ça, c'est Dieu qui décide.
C'est comme ça que la
Lamborghini. Et donc.
Très bon.
Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est un point très important. Il raconte le rabbi précédent, il dit, on a parlé comme ça avec mon père pendant plusieurs jours. Il m'a expliqué longuement les 8 niveaux qu'on a cités. Et après, un jour plus tard, le dernier jour avant que je parte, quand mon père est en train de poser son talit et zetfilin, de plier son talit et zetfilin, il m'a dit, viens Yosef Yitzhak. Son fils s'appelait Yosef Yitzhak. Il dit, viens Yosef Yitzhak, mon fils, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, tu vois toutes les qualités que je t'ai expliquées, les 8 qualités que je t'ai expliquées? Toutes ces qualités ne valent pas la qualité extraordinaire que Dieu a donnée, qu'on peut ressentir un plaisir de faire, d'aimer et de faire plaisir à notre juif. C'est-à-dire que toutes les qualités qu'on a citées, jusqu'au 8e niveau, le niveau qu'on éclaire le monde, on change la nature, etc., tout ça, c'est rien par rapport à la qualité que Dieu nous a donnée, à chacun de nous, qu'on peut avoir un plaisir à faire un plaisir à quelqu'un d'autre. Le plaisir de faire plaisir. Et ça, c'est le 9e niveau. Ce niveau-là, c'est le niveau le plus haut niveau. Seulement, la particularité, c'est que chacun de nous autour de la table peut atteindre ce 9e niveau. Les 8 autres niveaux, on peut pas les atteindre forcément, on est bloqué au premier. Mais le 9e niveau, on peut l'atteindre. On peut se forcer, on peut se travailler pour prendre plaisir à aider quelqu'un. Prendre plaisir, pas le faire en tant que corvée. Prendre plaisir.
Oui, c'est ça. Quelqu'un que tu aimes, oui, c'est sûr.
Non, c'est ça. Prendre plaisir à aider quelqu'un, même celui que je ne supporte pas.
Service. Tu fais une sale crasse, t'as ruiné.
Non, mais il faut pas.
Mais attention, on tend pas l'autre joue, hein. Voilà, non, c'est pas ce que je dis.
L'autre joue, là. Ah oui, c'est pas ça.
Non.
Alors, c'est pas ce que je dis, justement. Alors, la question qu'on va se poser, et c'est une question qu'on va développer dans la suite, dans les suites du cours, Bezrat Hashem, c'est est-ce que c'est pas quelque part un petit peu vivre dans le déni? De parler comme ça, de dire, oui, bon, bah, tout est beau, tout est rose, tout est bonbon, etc.
C'est utopique.
Bah, c'est utopique, etc., c'est idyllique. Non, ça va pas, tu dis, il y a un problème, c'est pas bon, on peut pas l'aimer celui-là, c'est un rachat. Bon, donc fais-le progressivement. Surtout, c'est celui qui est en face de moi, c'est même pas qu'il a fait une crasse à moi, il fait une crasse à Dieu. J'arrive pas à le supporter. Alors, il faut qu'on explique.
J'ai essayé avec des gens qui ont fait des crasses. Plus ils voient que tu es gentil avec eux, et plus ils t'écrasent encore plus. Alors, à la fin, tu dis, va, dégage.
Et alors?
Je peux pas aller comme ça.
Et alors?
Alors,
qui t'a dit qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que t'en sais? D'abord, qu'est-ce que c'est que continuer comme ça?
Mais attends, mais le mec, à un moment, tu le rends service deux fois, trois fois. Il continue à te chier dessus, excuse-moi. Il y a quoi continue? Du coup, tu vas aller comme ça.
Tu peux employer une expression qu'on comprend?
Mais comment ça s'écraser?
Répète.
Du coup, tu vas aller comme ça. Tu vas prendre ton compte en banque,
la raison.
Ça va, c'est vraiment, c'est bon, gazon.
D'ailleurs, c'est du matériel.
C'est te dire.
Mais quel âme,
Non, c'est te dire. Serge, c'est te dire à quel point c'est difficile.
C'est impossible.
Ok, en bataille. Alors, on va expliquer.
C'est impossible à faire, même si t'essayes.
Ça fait de la peine.
Automatiquement, quand ça te fait de la peine, tu prends ça.
À ce moment-là, tu fais le belge.
Je suis.
Tu lui pardonnes une fois.
Oui, on y va. Alors, dans les mots. Kimiachar. Non. Pardon, on a tourné la page. Voilà, ouais.
C'est en bas de la première.
Velachen. Ah, Beshegam. Très important, ça. On a fini?
Oui.
Ça, on a déjà fini. C'est bien. Le Mekoram et le Kimraim. Donc déjà, il y a un premier point. Il y a un premier point quand il est de Morazaken. Premier point quand il est de Morazaken, il dit comme ça, il dit, d'abord, il faut savoir que toutes les Neshamot, on vient tous d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on ne sait pas ce qu'il y a chez l'autre. Alors bon, il y a la question de Michael, il va dire oui, mais on sait pas. D'accord, bah si on sait pas, on sait pas. Pas vu, pas pris. Moi, tu racontes pas des histoires maintenant. Je le connais pas l'autre. Tu me dis, ah, peut-être il est une grande Neshama. Bah peut-être, j'en sais rien. Moi, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que je fasse? Il dit non. Beshegam, d'autant plus, chez Kula Matimot. Non seulement qu'on peut pas savoir qui est plus important que qui. Au niveau de la Neshama. Au niveau du corps, on peut savoir. Au niveau du corps, je peux jauger une autre personne. Vous savez que, naturellement, instinctivement, on donne des points. Pas des points,
on jauge.
Des points avec TS à la fin. On jauge. C'est-à-dire, chacun de nous autour de la table, il donne des points sans se rendre compte, hein. C'est, même un enfant, il fait ça. On Depuis évalue, qu'on est nourrice, on évalue. Tu dis, celui-là, il est important pour moi. Celui-là, il est moins important pour moi. Donc, non, c'est pas des a priori. Non. C'est des points. C'est un degré d'importance. C'est-à-dire, tu dis, celui-là, il est important pour moi. Celui-là, il est moins important pour moi. Par rapport à quoi on donne ces points? Par rapport au corps. Par rapport à la façon comment j'analyse son corps. Donc déjà, il y a le premier point, il te dit tu ne vois pas son âme. Donc c'est le corps.
Ouais.
C'est le corps, ça. Pas de problème. C'est le corps, tout ça. Par rapport à ce que je peux voir. Mais par rapport à ce que j'arrive à analyser.
Ce qui procède à ça, c'est pas l'âme animale, justement?
Oui, bien sûr. Donc, la de Morazaké, maintenant, rappelez-vous, on va aller par palier. Premièrement, il te dit, le juif que tu as en face de toi, tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'il y a une grande échelle. Premièrement. Deuxièmement. Là, on tourne la page. Page 82. Beshegam, d'autant plus, chez Kulan Matimot. D'une certaine manière, toutes les Neshamot se valent. Ve'av Echad le Kulana. Et pas seulement que les Neshamot se valent, mais on a tous et toutes, donc toutes les Neshamot, le même père. Pourquoi? Puisque toutes les Neshamot, on provient de la même origine. Donc on a tous la même origine. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné dans le chapitre 2 du Dania. L'exemple du corps. Que le Ham Israël est comparé comme un grand corpus de Neshamot.
C'est un tout.
Et donc, d'où le corps humain, il est généré de quoi à la base? D'une goutte de sperme. Maintenant, de cette goutte vont venir tous les membres. Vous vous rappelez? Donc de la même manière. Maintenant, après dans les membres, t'as des membres plus importants, moins importants. Mais chacun de ces membres, finalement, d'où il vient? Il vient du même père. Ça veut dire que, même si par exemple tu vas dire que la tête est plus importante que le pied, mais la tête ne vient pas moins de son père que le pied vient de son père. Tout vient du père. Donc les Neshamot, même si tu as des Neshamot qui sont au niveau du pied et d'autres Neshamot qui sont au niveau de la tête, ça n'enlève pas, ça ne change pas que, au niveau des Neshamot, toutes les Neshamot proviennent du même père. Donc, d'un côté on te dit, les Neshamot, on est incapable de les juger. Moi, quand je vois une Neshama en face de moi, quand j'en joue en face de moi, je sais pas s'il est à la tête des Neshamot, s'il est au pied des Neshamot, s'il est au cœur des Neshamot, j'en sais rien du tout. Et même si tu le savais, de toutes les façons, toutes les Neshamot proviennent de quelle source? Elles proviennent tous de la même origine. Je continue. Velachen, c'est pour cela. Et là, c'est un point très important. Velachen, c'est pour cela. Étant donné que, au final, toutes les Neshamot se valent. Velachen, c'est pour cela. Nikriou kol Israël achim mamash. Voilà pourquoi tous les Bnei Israël sont appelés des frères. des vrais frères. Vous remarquerez que dans la Torah, plusieurs fois dans la Torah, un exemple qui vient à la tête dans la Parasha Shoftim, quand on parle d'un juif, on parle d'un frère. Il dit « Im lo karov elecha achicha » et si ton frère n'était pas proche, en parlant d'un frère juif. Mais pourquoi tu dis mon frère juif ? Eh, mon frère, il y a le cousin et le frère, tu vois. D'où ça vient, mon frère, c'est pas mon frère. Pourquoi quand je vois un juif, je dis mon frère, viens mon frère. Ça fait un peu parrain, tu vois, viens mon frère, viens, viens mon frère. Prends mon frère, c'est pas mon frère.
Eh, cousin.
Il y a mon pote, hein.
Cousin, c'est les Arabes.
Cousin, c'est les Arabes.
Les Arabes.
Non, non, cousin, parce que Abraham. Ah, d'accord.
Ils appellent nos cousins.
Mais pourquoi j'appelle un juif un frère ? C'est pas un frère. D'où pourquoi on appelle ça un frère ? Alors, il y en a qui vont dire, bon, un frère, c'est une image. Mais maintenant, on comprend qu'en vérité, quand j'appelle un juif frère, d'une certaine manière, c'est mamache, mon frère. Pourquoi c'est mamache, mon frère ? Parce qu'on a la même neshama. On partage la même neshama. On partage le même père. C'est qui le père ? C'est Akadosh Baruch Hu. Et de ce père qui est Akadosh Baruch Hu, il y a eu un corpus qui s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. C'est comme, c'est le corpus des neshamot, et dans ce corpus des neshamot, tu as des neshamot qui sont plus hauts, des gens qui sont plus bas. Mais en vérité, à la base, nous sommes tous des frères. D'accord? Mamash des frères.
C'est marrant parce que.
Okay.
Dans le lotisna, c'est marqué lotisna achicha.
Oui.
Dans le ve'afta, c'est marqué re'acha. C'est pas marqué.
On va voir ça. Ça, on va expliquer à la fin du chapitre. Pourquoi c'est écrit re'acha. Ok? Donc, mitzat shoresh nafsham be'hashem echad. Mitzat shoresh nefsham be'hashem echad, parce qu'en vérité, par rapport à l'origine de notre neshama, nous sommes tous les mêmes. Alors, c'est vrai, il est vrai certes, que au niveau du corps, on est différent. Mais que concrètement, même si on vient de la même neshama, au niveau du corps, on est différent. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, je suis dans le désert, on est dans le désert, voilà, je suis dans le désert avec David, et que j'ai une jerrycan d'eau, et que la jerrycan ne suffit que pour une personne pour faire le trajet jusqu'à la route du retour. D'accord ? Et j'ai pas assez, c'est-à-dire si je la coupe en deux, il y a... Si, les deux, on va partir, chas v'shalom.
David, t'es bien tombé, ça.
Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ?
Je te laisse boire.
Alors, il y a l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit on partage quand même, mais après on verra. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. C'est quoi la halakha ? La halakha, elle est ma vie passe avant, voilà. Prends ma vie passe avant. Parce qu'au niveau du corps, on est différent. Au niveau de l'âme, on est les mêmes.
C'est où ?
Ouais, mais c'est hein ? L'alakha, elle est gentille, l'alakha.
Quoi ?
Alors, il passe au monde.
Ah, justement, attends, attends, justement. Ça veut dire comme ça. Au niveau de la neshama, on est certes les mêmes. Et au niveau de la neshama, on partage tout. C'est presque mon âme sœur. C'est ma mâche. Chaque juif est mon âme sœur. Cependant, au niveau du corps, on est différent. Comme au niveau du corps, on est différent, c'est la raison pour laquelle, halakhiquement, au niveau du corps, on est différent, c'est la raison pour laquelle, halakhiquement, qu'est-ce qui se passe? Halakhiquement, s'il y a un problème et qu'on doit choisir entre les deux, c'est ma vie, elle passe avant. C'est la halakha.
C'est la même chose pour l'argent?
Pour tout.
Dans les affaires?
Bien sûr.
S'ils sont associés à l'argent, rien que pour un.
Non, non, je donne un exemple.
Non, ça c'est quand tu es le frère de Madoff, là.
Il prépare son futur.
Alors, dis l'Admor HaZaken comme ça. L'Admor HaZaken te dit qu'en vérité, c'est vrai que au niveau du corps, on est différent. Et c'est la raison pour laquelle ma vie passe avant la vie de l'autre. Mais au niveau de la Neshama, on est les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on te demande de l'aimer comme si que c'était ton frère, parce que c'est mamash ton frère. Par rapport à la Neshama, c'est mamash mon frère. Rak seulement, She'agufi mechulakim. Seulement les corps changent. Velachen, c'est pour cela. Et là, écoutez bien, c'est une phrase très importante. Aosim, gufam, ikar, venafsham, tefela. Ceux qui font de leur corps l'essentiel et leur âme, ils la mettent au plan secondaire. Iyef, charliot, ava, varva, mitit, benehem. Ils peuvent pas avoir de vrai amour et de vraie fraternité entre eux. Et là, atluya, bedavar, levada. C'est seulement un amour. Atluya, bedavar, un amour qui dépend d'une raison. Ça veut dire un amour qui est conditionné. Exemple. Imaginez qu'un homme va se marier avec une femme parce qu'il la trouve attirante. Tout va bien. Pas de problème. Il la trouve attirante. Et le jour où il s'est habitué à elle et qu'il la trouve plus attirante, qu'est-ce qui se passe?
Il rajoute une autre.
Il tiendra pas.
Ça veut dire que finalement, pourquoi il s'est attaché avec cette femme?
C'est le corps.
Par son corps.
Elle a une collection de son voiture.
On est d'accord? Et l'Admora Zeka te donne un très grand principe ici. Il te dit, c'est pas seulement par rapport à ton frère juif, c'est même par rapport à ta femme, même par rapport à tes enfants. Celui pour qui le corps est essentiel et l'âme est secondaire, il peut pas avoir d'amour désintéressé, c'est impossible. Chaque amour qu'il aura sera un amour intéressé. C'est la raison pour laquelle il va aimer sa femme tant qu'il la trouve belle. Il va aimer sa femme tant qu'elle lui donne ce qu'il veut. Il va aimer sa femme tant qu'elle lui fait les plats qu'il veut. Il va aimer ses enfants tant qu'il lui amène des bonnes notes. Ah, l'enfant n'a plus des bonnes notes, il supporte plus. Parce que celui qui aime son enfant, celui qui aime une personne, celui pour qui le corps est essentiel et l'âme est secondaire, il peut pas aimer quelqu'un par un amour désintéressé. Pour arriver à aimer une personne de façon désintéressée, tu es obligé, d'une certaine manière, de faire passer l'âme avant le corps. Seulement, c'est quoi le problème? C'est qu'on arrive à le faire pour certaines personnes, et pour d'autres, on n'a pas envie de le faire. Pour ta femme, pour tes enfants, tu arrives à aller au-delà du corps. Tu arrives à dire, oui, bon, au niveau du corps, il y a un problème, mais je suis au-delà de ça. On est d'accord? Je donne un exemple. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une femme parce que il trouve cette femme attirante. Il s'est marié avec une femme parce qu'il pense que cette femme va lui faire des plats, va lui faire ce qu'il veut. D'accord? Et cette femme tombe malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il la largue? Pourquoi non?
Il l'a mariée par amour au départ.
Quel amour? Elle était attirée. Si on lui avait dit, si on lui avait dit quand il va se marier, que dans un an elle va tomber malade, qu'il se marie avec elle. Monsieur Béni, de répondre à ma question, s'il vous plaît.
Ça peut arriver,
si on lui prévient, quand il va se marier avec elle, on lui dit, écoute, tu vas te marier avec cette femme, mais dans un an elle va tomber malade. Et c'est une maladie incurable. Est-ce qu'il serait marié avec elle quand même?
Bien sûr, s'il a
besoin. Attendez, doucement. C'est une question importante que je pose.
Ça dépend des sentiments de ce monsieur. Hein.
Très bien.
Ça dépend, il peut, combien même elle est malade, il peut l'épouser quand même. Hein. Bien qu'elle...
Bien sûr qu'il peut, il fait ce qu'il veut.
Non mais disons que s'il savait...
Donc s'il savait, peut-être
ça peut être.
Ça peut être. Ça veut dire qu'il faut être honnête. Il faut être honnête.
Ouais, c'est ça.
En général, notre façon d'aimer les choses, c'est par rapport au corps, c'est pas par rapport à l'âme.
Oui, mais c'est la vérité. C'est que le corps, je le vois, je le sens, je le touche. Très mais l'âme, je la vois pas. Elle est où?
À 100%. À 100%.
Non, mais il faut.
Je suis d'accord à 100%. Vous avez raison à 100%.
Oui.
On aime le packaging.
Ben voilà.
Oui. Vous avez raison.
Mais il faut apprendre à lire au-delà.
Vous voyez la bouteille de Coca? Si j'enlève le rouge, là, que je mets juste une bouteille comme ça en plastique, ben je l'aimerais pas autant. Ça, il me fera pas la même chose.
Pas de bouchon.
Hein?
Tu crois qu'il a une âme ou pas?
Tout est comme ça. Vous avez raison.
Bien sûr.
C'est à 100%. C'est pour ça que l'Admora Zeka te dit comme ça. Il te dit, celui pour qui son corps est essentiel et son âme est secondaire ne peut pas aimer quelqu'un de façon désintéressée. Alors, il y a des gens qui sont comme ça toute leur vie et que, Baruch HaShem, Baruch HaShem ou pas, en tout cas, ils n'ont pas besoin de faire appel à un amour désintéressé. Parce qu'ils arrivent toujours à avoir un amour intéressé. Parce que bon, ils trouvent des intérêts partout. Il y a des gens comme ça, ils trouvent des intérêts partout. Ouais. Pas de problème. Seulement, on te dit, l'Admora Zeka, une personne comme ça, il ne sait pas ce que c'est un amour désintéressé. Et c'est ce que dit Pirkei Avot. Pirkei Avot te dit comme ça. Il te dit, quand tu as deux personnes qui ont un amour qui est intéressé, dès que la cause, l'origine de l'amour s'en va, l'amour s'en va. Dès que tu as deux personnes qui ont un amour désintéressé, même si, au moment où l'amour est désintéressé, il y a un intérêt, même si l'intérêt s'en va, l'amour reste toujours là. Et la Mishnah met deux exemples. Premier exemple, c'est quoi? C'est l'amour de Amnon et Tamar. Vous savez que Amnon et Tamar, c'est une histoire là-bas, demi-frère, etc., dans la Bible, une histoire un peu particulière. C'est un amour intéressé. Parce qu'il se plaisait. Le jour où il se plaisait plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre. Vous voulez se tuer. Parce que l'amour était intéressé. Donc dès que la cause de l'amour est partie, l'amour est parti aussi. Alors que l'amour, l'exemple de l'amour intéressé, désintéressé qu'on a, c'est l'amour entre David et Jonathan. David et Jonathan. Alors, pourtant, quand ils étaient amis, d'accord? Ah oui. Donc, l'amour entre David et Jonathan, c'est une histoire de la Bible, d'accord? C'est un amour qui est particulier. Pourquoi?
C'est pas un amour de vacances.
Parce que, Pourquoi? Mais pourtant, c'est intéressant. Parce que quand ils se sont aimés, il y avait un intérêt. Pourquoi? Parce que Jonathan était le fils du roi. Donc il y avait un intérêt de l'aimer. Seulement, même s'il y avait officiellement un intérêt, mais au fond d'eux, ils s'aimaient sans intérêt. Donc ils sont allés au-delà de l'intérêt qui était visible. C'est la raison pour laquelle, même lorsque cet intérêt-là est parti, parce qu'entre-temps, le fait d'être un fils du roi, ça s'est retourné contre lui, parce que le roi, entre-temps, voulait tuer David, et voulait tuer celui qui était avec David, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué quand même à s'aimer.
Mais la question est...
Donc ça veut dire que deux secondes, ça veut dire quoi?
David devrait aimer tout le pays d'Israël.
Ça veut dire quoi? Deux secondes, je continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu as un amour qui est désintéressé, même si ça commence par un intérêt, et même si des fois il y a un intérêt, par exemple quelqu'un qui va aimer une femme parce qu'elle lui plaît, peut-être qu'elle lui plaît aussi, mais s'il arrive à se dire qu'il est attaché à elle, pourquoi? Parce que c'est un amour qui est désintéressé, même lorsque l'intérêt s'en va, l'amour reste toujours là. Et c'est ça, c'est très important à Bataille. Ça veut dire qu'il faut apprendre quand on communique avec les gens.
Il faut être capable de lire.
D'accord.
Une femme qui est moche comme un pou, je vais la marier parce que...
Oui, mais elle a une grande âme.
Quoi, soi-disant?
En plus, il est cache. Il est cache.
Et elle est moche comme un pou. Qu'est-ce que j'en
fais? Tu la revends? Elle a une âme qui vient de très très haut.
Mais la revend au bon coin.
Non, mais c'est destiné, vous la trouverez pas moche.
C'est des questions vraies.
Monsieur Benita, la réponse est la suivante. C'est qu'au début, Dieu écrit une attirance pour nous permettre de nous marier. Parce que sans l'attirance, on ne se marie pas. Mais après, il faut apprendre à aller au-delà de l'attirance.
C'est ça.
Il faut apprendre à communiquer et à être relié avec les gens au-delà de l'attirance. Vous me suivez? Ça veut dire, Dieu fait en sorte qu'au début, on va s'attacher à quelqu'un par rapport à ses qualités. Par rapport aux qualités qu'il a, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, etc.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche.
Mais après, avec le temps, et c'est ça l'effort qu'on doit avoir, l'effort qu'on doit faire, c'est d'essayer d'aller au-delà de cette relation, au-delà du corps, d'essayer de se relier avec la neshama de la personne. Et ça marche, parce qu'on le fait avec nos enfants, on le fait avec nos femmes, ça marche.
Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter, ça?
Ben, ça va m'apporter qu'avec, quand j'arrive à le faire, je peux sentir un sentiment d'amour pour n'importe quel juif au monde. Ça, ça va m'apporter. Quand vous arrivez à être comme ça, vous pouvez aimer n'importe qui. Mais on fait que commencer. C'est un cours, on va aller en plusieurs cours, ce cours. Ok? Je vais relire dans les mots cette grande phrase. Retenez cette grande phrase. Donc, Velachen, c'est pour cela, page 83. A Osim, Goufam, Ikar, Benafsham, Tefela. Ceux, malheureusement, comme la majorité d'entre nous, qui font de leur corps l'essentiel et de leur âme secondaire. C'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le packaging, c'est le plus important. C'est comme ça. C'est, aujourd'hui, on vend un produit. Pas avec les qualités qu'il a, on va en produire avec le packaging qu'il a. C'est comme ça. D'accord. Le design, c'est comme ça. Tu vas acheter un téléphone, tu vas acheter avec le design. Tu vas acheter un meuble, tu vas acheter avec le design. Tu vas prendre un appartement avec le design. Tout, tu prends avec le design. C'est malheureux, ça veut dire qu'on va analyser les choses par rapport au corps. Celui pour qui le corps est essentiel et l'âme est secondaire, c'est-à-dire que le fond, ce qu'il a au fond, ça ne le dérange pas. Lui, ce qu'il veut, c'est l'enveloppe. Eh ben, dans ce cas-là, Iefchar liot ahava viachva amitid benem. On peut pas avoir de vraies relations et de vrai amour et de vraie fraternité avec une personne comme ça. Et la atluya bedavar levada.
C'est superficiel.
C'est un amour qui dépend de la chose. C'est pour ça le jour où la raison pour laquelle j'ai pris cet objet ou cette chose n'est plus là ou qu'elle m'intéresse plus, ben c'est fini, il n'y a plus rien.
C'est ça.
D'accord? Et donc, si on nous demande à chaque juif à chaque instant, dans chaque endroit, d'aimer chaque juif, pourquoi? C'est parce qu'on te dit, quand tu aimes un autre juif, tu n'aimes pas son corps, tu aimes son âme. Celui qui a fait des bêtises, celui qui t'a fait une crasse, c'est le corps de l'autre, pas la neshama de l'autre. Donc quand je vais aimer l'autre, je vais aimer sa neshama. Maintenant, certes, il reste la question de Serge. J'ai dit, oui, mais attends, il m'a fait une crasse, j'arrive pas à me le voir en peinture. C'est une bonne question. Mais déjà, il faut se dire que celui qui t'a fait la crasse, c'est son corps, c'est pas son âme. Et que par rapport à l'âme, il reste ton frère. Et donc, je dois continuer à aimer son âme. Je peux détester son corps, mais aimer son âme.
T'as de la chance,
hein. Ça reste mon frère.
J'aime ton âme.
C'est la famille.
Hein?
C'est pas un corps que je vais expliquer ça. C'est de la famille.
Tu lui dis, j'aime ton échama, j'aime pas ton corps.
Comment tu expliques
l'histoire? Tu dis, écoute, ta échama, elle est super, mais ton corps, il est exécrable.
Mais est-ce qu'il faut dire qu'on a un échama qui lui rembourse ou pas?
Comment tu expliques Yaakov avec Rachel et Léa?
Alors,
il y avait deux possibilités, Rachel et Léa. On dit qu'il aimait plus Rachel et Léa. Tu auras dit les yeux de Léa étaient jolis, Rachel était moche.
C'est-à-dire que Yaakov a mis son amour sur quelque chose de gauche.
Non, pas du tout. Attends, pas juste. Yaakov savait qu'elle était destinée. Parce qu'il savait que Esav.
On précise alors que Rachel était plus belle que Léa. Qu'est-ce qu'on s'en fout?
Non, parce qu'on dit, Léa était très belle à la base aussi.
Mais pourquoi d'accord avec moi que la Torah fait une distinction au niveau de la beauté physique de Rachel et de Léa?
Oui, bien sûr.
Pourquoi? Yaakov, il devait s'en foutre.
Parce qu'il y a une. Non, je pense pas qu'ils ont. Enfin bon, peu importe. C'est parce que c'est une perfection physique qui correspond à une perfection spirituelle.
Ah, bien sûr. Il y a quand même un rapport entre le corps et
évidemment,
la neshama.
Évidemment, bien sûr. Bien sûr.
Oui, tu peux pas laisser.
Alors.
Tu veux dire qu'un Quasimodo, il a une neshama de Quasimodo?
Ben regarde.
Un quoi, hein?
Un Quasimodo, il a une.
C'est quoi Quasimodo?
Un bossu. Non, enfin quelqu'un de très moche.
Non, c'est clair qu'une personne qui. Si tu veux, une personne qui a un physique plus beau. Ça veut dire qu'il arrive à exprimer ses qualités. Donc, c'est une chama aussi, il arrive à exprimer ses qualités, c'est sûr, ça. Il y a une force plus grande.
C'est tout le problème de Toko Kebaro.
Après, chacun a différents moyens de s'exprimer. Alors, juste raboter pour terminer, parce que c'est déjà l'heure. Je vais faire un rapport avec la paracha. Le rabbi explique comme c'est une question que ton fils m'a posée la semaine dernière, ça. Quand on. Oui, ton fils. Ouais. Quand vous regardez Rashi.
Je l'aime.
D'accord.
Mais comment c'est à Avatrinam, j'espère.
Dans la paracha la semaine dernière, il y a deux Rashi. Un Rashi dans la paracha la semaine dernière et un Rashi dans la paracha cette semaine. Dans la paracha la semaine dernière, on raconte que lorsque les Égyptiens ont couru après les bénis d'Israël pour nous rattraper devant la mer, il est écrit Veine Mitzraim Nosea Achareim. Il est écrit que l'Égypte voyageait derrière eux. L'Égypte au singulier. Bien sûr, quand on dit le mot singulier, ça interpelle Rashi, parce qu'il n'y avait pas un Égyptien qui courait, il y avait plusieurs Égyptiens. Et qu'est-ce que dit là-bas Rashi? Il dit, c'est dur quoi, Veine Mitzraim, il dit, Belev Echad Ke Ish Echad. D'un seul cœur, comme un seul homme.
Ils étaient unis.
Contre nous. Unis contre nous. Cependant, dans Rashi de la paracha cette semaine, il est écrit que va Yichan Sham Israël Negadar, que le Ham Israël a campé, Israël a campé au singulier devant la montagne. Et qu'est-ce que dit la Barashi? Que Ishechad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. Alors lui pose la question, il dit mais comment c'est qu'il y a cette différence? Que à propos des Égyptiens, on a dit comme un seul cœur, comme un seul homme, alors que pour les Juifs on dit comme un seul homme d'un seul cœur. Ça veut dire que chez les Égyptiens on a fait passer d'abord le cœur après l'homme, alors que chez nous on a fait passer d'abord l'homme, après le cœur. C'est Rashi, hein, c'est Rashi la parasha, non, Rashi la parasha cette semaine. Et le rabbi, il dit comme ça. Il dit, c'est très simple. Il s'est lié à ce qu'on va expliquer maintenant. Chez les Égyptiens, hein, ils n'ont pas cette qualité qu'on a chez les Juifs. D'abord, je vais commencer par les Juifs. Chez les Juifs, en vérité, c'est Keish Echad. En vérité, on est comme un seul homme. Parce qu'on a tous la même neshama. Après, on te dit, Belev Echad, d'un seul cœur, ça veut dire avec la même motivation. Ça veut dire qu'en vérité, au fond de nous, par rapport à la Neshama, on est conscient qu'on a tous la même Neshama. C'est pour ça qu'on va avoir une vraie unité entre Juifs. Pourquoi? Parce que par rapport à notre Neshama, on est tous les mêmes. Ça, c'est Keish Echad. Après, tu as Belev Echad. Que même au niveau du cœur, on arrive à avoir la même motivation. Mais ça, c'est déjà au niveau du corps. D'accord? Voilà pourquoi, quand on parle des Juifs dans la paracha de cette semaine, on te dit que quand on s'est unis devant le don de la Torah, d'ailleurs, c'est une unité exceptionnelle qui a eu lieu une seule fois dans l'histoire juive. C'était l'unité du premier Sivan. On dit que le premier Sivan, tout Israël a campé. Vous verrez d'ailleurs dans le Sefer Torah rouge qu'on a, le Sefer Torah de la communauté, Keish Echad Belev Echad. Echad Velo numérique 13e, d'accord? Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme d'un seul cœur. Comme un seul homme, ça veut dire, comme si qu'on était une seule Neshama, un seul corpus de Neshamot, Belev Echad avec la même motivation. Ça, c'est les Juifs. Alors que les Égyptiens, c'est le contraire. C'est que d'abord, ils ont Belev Echad avec la même motivation. Et après, ils essayent de faire en sorte que non seulement on a la même motivation, mais en plus de ça, c'est comme si qu'on était une seule personne. Mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils sont pas au même niveau que nous. Ils n'ont pas la force de la Neshama qu'on a. C'est quoi la force de l'âme du Juif? C'est qu'en vérité, on est tous complémentaires. On est tous complémentaires. Oui. Et que l'un sans l'autre, c'est comme s'il manque un pied, il manque un doigt de pied, il manque une tête, il manque une oreille. On est complémentaires. Ça, c'est Shulam Israël. Que Ish Echad, Belev Echad. Comme un seul homme, d'un seul cœur. D'accord? Et ça, c'est exactement la Nekouda, le point qu'on a expliqué aujourd'hui. La notion que, on a expliqué que comment on peut aimer un autre juif comme soi-même, on fait que commencer. Comment je peux l'aimer comme moi-même? Je peux l'aimer comme moi-même. Pourquoi? Parce qu'en vérité, d'abord, je le regarde uniquement au niveau de son neshama, pas au niveau de son corps. Mais on n'a toujours pas expliqué comment c'est possible.
Notre prochain, excuse-moi, on parle essentiellement d'un juif?
On parle que du juif. Que du juif. Oui.
Ouais, je pense que c'est difficile.
Les autres, tu peux les respecter, parce que, c'est, et là, j'arrive à ta question. Bien faire la différence entre l'amour et le respect.
Non, non, mais là,
un gosse, je peux le respecter.
Non, d'accord.
Mais un juge, je dois l'aimer. Et c'est très dur d'aimer quelqu'un quand tu sens pas que tu l'aimes.
Non, mais c'est un devoir, tu as raison.
C'est une obligation, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui est plus forte que aimer Dieu. Ok?
Contre Israël, j'ai quitté des mecs de l'armée qui témoignent contre l'armée. C'est un truc de fou.
Oui. Ça change pas que je peux quand même l'aimer. Parce que c'est son corps qui fait des bêtises. Mais sa neshama, elle fait partie de moi.
Non, mais il faut arriver à intégrer ça.
Il faut arriver à intégrer ça. Exactement.
Keish
echad belev echad. Quand on arrive à comprendre qu'on est complémentaires et qu'en vérité, au niveau de notre neshama, on est les mêmes, on arrive automatiquement à aimer. Bon. Maintenant, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer à développer avec la fameuse phrase de Hillel l'Ancien, qui a dit que aimer son prochain comme soi-même, c'est la base de toute la Torah. Mais ça, il faut qu'on développe plus longuement, Bezrat Hashem. Donc, réfléchissez à ce qu'on a expliqué ce soir. Même s'il reste des éléments flous, c'est pas grave. On reviendra la semaine prochaine. On va revenir. Non, mais on construit. D'accord?
C'est pas facile.
Bezrat Hashem. Mais déjà, si je pense qu'on peut avoir déjà une conclusion de ce soir, c'est que quand on regarde un juif, il faut pas le regarder au niveau de son enveloppe charnelle, il faut le regarder au niveau de ses neshama.
Comment tu fais avec un juif? Hasvechaïla qui tue un autre juif.
Ça change pas. Son corps a tué.
Oui, mais attends, mais
il a tué
sa neshama. Sa neshama, elle est bien.
C'est une partie de sa neshama qui a tué. Son cerveau, c'est
non, sa neshama, elle reste intacte.
Mais c'est pas sa neshama qui l'a fait agir.
C'est bien la neshama.
J'ai compris, mais sa neshama reste intacte. Sa neshama, elle reste bien.
C'est pas sa neshama.
Il peut avoir une très grande neshama. Donc, je l'aime par rapport à sa neshama.
Est-ce
que.
Est-ce que
quoi, pardon?
Sa neshama, elle peut baisser de niveau.
Non.
Alors que mec, il fait ce qu'il veut,
c'est plus ça. La neshama peut pas baisser de niveau. La neshama, elle peut être entachée, elle peut être encrassée, d'accord, mais elle peut pas baisser de niveau. Elle peut, une neshama, elle peut pas ni monter ni augmenter, c'est un moteur.
Ah, alors. Pourquoi?
Non, c'est des mérites. La neshama, c'est un moteur. C'est un moteur qui est là, qui est toujours là en moi. Seulement, des fois, je laisse s'exprimer, des fois, je laisse s'exprimer, c'est tout.
Alors pourquoi on a des lois répréhensibles contre des gens qui des voleurs, des tueurs?
Ça on va voir. Mais c'est pas incompatible.
Mais pourquoi c'est pas incompatible? Parce qu'on te dit tu dois aimer.
Non, mais tu punis.
Je peux le punir et l'aimer en même temps.
Non mais il y a certains délits qui sont punissables de la mort.
Ouais. Et alors je peux le tuer et l'aimer quand même. Oui bien sûr. C'est pas incompatible.
Je te tue.
Son âme je l'aime. Il faut apprendre à la dissocier. Il faut creuser encore.
Mais c'est pas l'âme qui anime le corps.
Ça veut dire comme ça. Comme par exemple, tu as quelqu'un en face de toi que tu supportes pas. Quelqu'un que tu aimes beaucoup mais qui te casse les pieds maintenant. Ça peut arriver. D'accord? Qu'est-ce que tu supportes pas? Tu supportes pas son défaut. Mais au-delà de son défaut, tu l'adores. Donc, je dois me dire qu'en même temps que je supporte pas son corps, j'adore sa neshama. Donc si j'arrive à faire en sorte que dans ma tête, la neshama est essentielle et le corps est secondaire, je peux aimer n'importe qui. Bon, mais à méditer.
Je peux poser une question?
Vas-y.
Pourquoi les Neshamat, ils ont des niveaux différents?
Hein? C'est Dieu qui a décidé.
D'accord.
Des quoi différents?
Des niveaux différents. Pourquoi ils sont pas tous égales?
C'est pas la Neshama qui anime le corps.
C'est?
Pas la Neshama qui anime
elle anime le corps, bien sûr que la Neshama anime le corps.
Elle le dirige pas.
Mais c'est pas la Neshama, c'est le libre arbitre qui a fait fauter la personne. La Neshama, c'est pas elle qui a tué. Elle voulait pas tuer la Neshama.
Elle réside dans le corps, c'est tout.
Elle anime aussi, elle
fait animer.
C'est un moteur qui tourne, tu vois, il y a un moteur qui tourne. Le moteur, il tourne et coupe. Maintenant, moi, je prends le moteur, hop, je le mets sur quelqu'un, ça coupe sa tête.
Razer
Shalom.
Mais
c'est pas le moteur qui a, c'est le moteur qui a coupé, mais le moteur, il n'y est pour rien.
C'est moi qui dirige mon âme, c'est pas mon âme qui me dirige.
C'est
moi qui dirige mon âme.
Bien sûr.
Sans être forcément à un niveau plus haut.
C'est moi qui dirige mon âme, je la dirige où je veux.
Mais il faut pas confondre le cerveau et l'âme.
Mais la neshama en soi, elle est bien.
C'est-à-dire
que même la neshama d'un tueur, elle est bien. Je vais vous donner un exemple, Rabotai. Bon, je suis désolé, on a dépassé un peu l'heure aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, regardez. Quand par exemple vous allez, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est, j'ai des amis qui font ça tous les jours et toutes les semaines. Quand vous allez par exemple à Fleury-Mérogis, vous allez en prison. Hein? Mérogis, ouais, j'ai oublié le nom, d'accord. La prison là-bas.
Oui.
Non, mais sérieusement, j'ai un ami à moi qui va là-bas en prison, il est aumônier. Et là-bas, t'as des. T'as des gros, gros cas. Quand tu vas dans un endroit comme ça, tu dis, mais pourquoi je m'occupe de lui finalement? Qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je me prends la tête maintenant en entrant dans cette prison pour m'occuper de lui? Est-ce que je dois l'aimer, celui-là, avec les bêtises qu'il a fait? Et t'as des gens qui ont fait vraiment des bêtises très, 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 très graves.
Mais encore ça, c'est possible parce qu'il t'a rien fait à toi.
D'accord.
il a fait aux autres.
Ouais.
Donc toi, tu n'es pas.
Que ça change, que ça change. Je suis égoïste, égoïste de parler comme ça. Je te vise pas, hein. Ça change, hein.
Mais t'es pas quelqu'un qui est impliqué.
Mais j'arrive pas à supporter de savoir quelqu'un qui a fait ça. Je peux même pas le regarder. Je peux même pas le regarder. Quand t'apprends ce qu'il a fait. Des fois, tu dis, écoutez, ne me racontez pas ce qu'il a fait, comme ça, moi, je le regarde.
Ah ouais, clairement.
D'accord? Et c'est là que la Torah t'apprend, elle te dit non. Elle te dit, même si son corps est répugnant, sa neshama, elle reste bien. Donc, regarde-le par rapport à sa neshama. On va développer encore, hein. Faites comme ça. On s'arrête là pour
aujourd'hui. Arbitre.
Ah, mais Arbitre, le moteur, il peut quand même s'encrasser.
Qui n'a pas fait Arbitre? Levez la main.
Oui, mais il reste bon, toujours.
Il y a mis
Ah. C'est comme